Les colloques du Collège de France.
On va rester du côté de l'histoire naturelle et de la question de l'unité ou de la pluralité de l'espèce humaine, moins dans la dimension évolutionniste que dans la dimension. Anatomiste. Avec Maxime Gutin. Alors Maxime Gutin est venu de moins loin, il n'a pas traversé l'Amérique puis l'Atlantique, il a simplement descendu 3 étages puisqu'il est cette année à TER au Collège de France. Il est aussi doctorant à l'Institut européen de Florence où il est en train d'achever une thèse intitulée The Brain, Medical Knowledge and the Making of Racial Differences in the French and British Empires. Qui porte sur les manières dont, à partir du milieu du XVIIIe siècle et jusqu'au premier tiers du XIXe siècle, des savants européens, principalement des médecins, chirurgiens et anatomistes, mais aussi des zoologues, philosophes et naturalistes, ont étudié le cerveau ou mobilisé des études sur le cerveau afin de construire les différences raciales. Et le titre de son intervention est « Connaître le cerveau, déterminer la race, autorité des savoirs médicaux ».
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci pour cette présentation. Je voulais commencer par des remerciements d'être présents et présentes ici pour cette première journée de colloque et en profiter pour remercier les organisateurs et organisatrices de m'avoir invité à présenter mon travail à cette occasion. Donc, j'aimerais commencer par présenter une série de citations que l'on peut trouver dans des textes médicaux de la fin du XVIIe siècle jusqu'au début du XIXe, textes médicaux qui traitent en tout ou partie de l'étude du cerveau. En 1669, le médecin danois Nicolas Steno ouvre son ouvrage intitulé « Anatomie du cerveau » par une confession, concernant ce qu'il considérait comme étant l'organe de l'âme. Dans la première phase de son discours, il déclare « Au lieu de vous promettre de satisfaire votre curiosité sur l'anatomie du cerveau, je vous avoue sincèrement et publiquement que je n'y connais rien ». Pour Steno, cela s'expliquait par le manque de connaissances sur la structure du cerveau, les théories contradictoires concernant ses fonctions, ainsi que sur les difficultés pratiques et techniques liées à son examen. Comme il l'expliquait, je cite, « La substance est si molle et les fibres si délicates qu'on peut à peine les toucher sans les rompre ». Mais ce n'est qu'une partie de l'explication et on s'arrêtera sur une interprétation un peu plus en profondeur après avoir vu en fait la répétition de ce type d'énoncé. Par exemple, à la fin du XVIIe siècle, le savant anglais Walter Charlton affirmait que le cerveau était l'un de ces mystères de la nature dont le sage créateur semble s'être réservé la connaissance. Charlton était un philosophe naturaliste et médecin du roi qui devint membre de la Royal Society en 1663, et du Royal College of Physicians en 1676. Il estimait qu'outre les difficultés matérielles liées à l'étude du cerveau, dont on a évoqué avec Steno, rien ne pouvait être découvert sur les facultés humaines dans cet organe, car celle-ci appartenait à l'âme. Pour lui, comme pour la plupart des savants de son époque, il n'y avait pas de lien matériel, pour le dire vite, hein, c'est plus complexe, entre l'anatomie du cerveau et ce qu'on définissait alors comme les fonctions supérieures de l'humain, comme l'intelligence. Si on fait un bond pour arriver à la période qui va être au centre de la présentation, le dernier tiers du XVIIIe et donc le début du XIXe siècle, on peut citer aussi Buzzick Harwood, professeur d'anatomie à Cambridge, qui en 1696 affirmait à propos de l'étude des cerveaux animaux cette fois-ci, « Chez les différents animaux, il devait y avoir des particularités marquées dans la structure du cerveau, correspondant à leurs différentes habitudes et intelligences. Quels que soient nos espoirs ou nos vœux, nous n'avons jusqu'à présent tiré que peu de choses, sinon rien, de cette source. Je n'ai pas avancé d'un seul pas par rapport à mes prédécesseurs. » En continuant toujours à la fin du XVIIIe siècle, plus précisément en 1799, le médecin anglais Charles White, chirurgien formé à Manchester, connu pour ses traités d'obstétrique et sa classification hiérarchique des êtres vivants fondée en partie sur la taille du cerveau, on va y revenir, rappelait avec prudence à ses lecteurs « Nous en savons si peu sur la physiologie, je cite, du cerveau et des nerfs, que je ne m'étendrai pas beaucoup sur ce sujet. » Ce qui semble être ici formulé sous une forme de constat, voire même de déception, pouvait aussi prendre la forme d'un espoir, ou en tout cas d'un appel à plus ample recherche. C'est le cas de Daniel Noble, médecin britannique et phrénologue, on a parlé de la phrénologie avec la présentation d'avant, aussi spécialisé dans l'étude des maladies mentales, déclare au début du XIXe, je cite, « Lorsque l'anatomie comparée du cerveau sera pleinement connue, sous-entendu, elle ne l'est pas, nous pourrons alors peut-être commencer à découvrir la véritable physiologie du cerveau. » Enfin, dernier exemple que je citerai, il y en a d'autres. En 1801, le médecin marseillais Louis-Marie-Joseph Robert publiait son ouvrage « Mégalanthropogénésie », sous-titré « L'art de faire des enfants qui deviendront des grands hommes ». Donc, c'est un ouvrage où il expose des théories sur la reproduction, sur la transmission des facultés intellectuelles, ce qu'il appelle facultés intellectuelles, et propose un programme d'éducation pour les enfants. Et à un moment donné de son traité, il affirme que, je cite, « La pulpe cérébrale est considérée par les physiologistes modernes comme l'organe sécréteur de la pensée. Les mouvements et les ressorts de ce mécanisme sont extrêmement sensibles, mais le principe qui les sous-tend nous est inconnu et le restera probablement pendant des siècles. » Je pourrais continuer la liste et on pourrait même penser aux récurrences de cette idée, toujours aujourd'hui, pour certains médecins, neurologues, le cerveau reste, notamment depuis les années 90, ce qu'on appelait la décennie du cerveau, la dernière frontière, je cite, du corps humain, un territoire inconnu avec une métaphore spatiale bien connue là aussi et qui a elle-même ses propres problématiques. Et la récurrence de type dénoncé a été soulevée par des historiens comme Claudio Pogliano, vous le voyez ici. Donc la question, c'est alors, pourquoi, pendant cette longue durée, ceux qui semblaient être les mieux placés pour produire des discours sur le cerveau et son anatomie affirmaient qu'ils n'en connaissaient rien, qu'ils ne connaissaient rien cet organe, ou plutôt pourquoi est-ce qu'ils continuaient en fait à produire à la fois des discours sur le cerveau et à affirmer qu'ils n'en connaissaient rien ou pas grand-chose? Déjà, il serait sans doute erroné d'établir une continuité entre ces énoncés. On voit qu'ils prennent plusieurs formes, qu'il s'agit alternativement de confessions, de déceptions, d'appels à des recherches plus intenses, menées différemment, d'espoir, d'affirmations plus sentencieuses. En somme, on voit des registres rhétoriques différents qui nous interrogent sur les motivations de tels énoncés. Plus fondamentalement, on comprend surtout que ces énoncés sont pris dans des cadres bien différents, parce qu'ils relèvent de périodes différentes, mais aussi et surtout parce qu'ils relèvent de conceptions du corps et donc du cerveau et de sa place dans l'économie corporelle bien différents. Le cerveau est pris dans des schémas de compréhension du corps en termes de circulation du sang, de configuration spéciale avec l'esprit et l'âme, relevant configuration du corps, relevant des nerfs, de l'organisation, etc., sans qu'évidemment toutes ces conceptions soient exclusives. Enfin, ces affirmations sont énoncées dans les cadres religieux, institutionnels et nationaux qui varient là aussi. Il ne reste donc pas une continuité ou une équivalence entre ces énoncés, mais une forme de récurrence. Or, l'une des manières de comprendre cette récurrence, me semble-t-il, peut avoir un lien avec l'un des thèmes sous-jacents de ce colloque, celui de l'autorité savante, thème qui est souvent couplé avec celui de l'expertise, autorité-expertise, un thème assez classique dans l'histoire des sciences et de la médecine. De ce point de vue-là, on note que ces énoncés sur le manque de connaissances sur le cerveau n'empêchent pas la production de textes médicaux sur cet organe. Et donc, on peut penser que même si c'est lié à d'autres motivations, il semble qu'en affirmant qu'ils, anatomistes, médecins, c'est-à-dire ceux parmi les mieux placés pour étudier le cerveau de leur point de vue, quand ils disent qu'ils ne connaissent pas cet organe, ils produisent en fait un discours permettant de se placer comme les seuls pouvant prétendre à la fin, connaître l'anatomie et les fonctions de cet organe. Ces acteurs pouvaient donc se servir de ce type de discours pour souligner l'importance à la fois de nouvelles recherches sur le cerveau et de ceux qui les mènent, c'est-à-dire eux-mêmes, à établir certaines généalogies de la connaissance du cerveau en écartant certains, dont les dits anciens, ou à délimiter le périmètre de la connaissance médicale par opposition à l'importance théologique ou ontologique de l'âme, par exemple, mais pas que, donc des enjeux d'autorité savante. Dans ce cadre, j'avance l'idée qu'outre le fait qu'elle est motivée par diverses raisons, notamment matérielles, religieuses ou d'autorité de champ de savoir, comme on va le voir, la récurrence de telles affirmations sur une longue période reflétait également la manière dont les savants, étudiant le cerveau, l'ont construit et exploité comme un organe malléable. En répétant que l'on savait peu ou rien de cet organe, les savants qui l'étudiaient pouvaient contrôler la production des connaissances sur le cerveau, affirmer leur autorité et façonner ces conceptualisations afin d'élaborer diverses théorisations sur le cerveau. Et en fait, cette idée, elle était déjà présente sous une certaine forme, évidemment, dans les travaux de Steno. À l'affirmation du manque de connaissances concernant le cerveau, Steno ajoutait que sa fragilité matérielle pouvait conduire à une forme de malléabilité conceptuelle, si on peut le dire avec nos termes, le transformant alors en un support pour la projection de diverses idées dites préconçues. Il le formulait ainsi, les expériences de tous les anatomistes, je cite, qui ont disséqué le cerveau, démontrent invariablement ce qu'ils en avaient déjà dit. Sa substance est si docile qu'elle encourage les mains, même sans préméditation, à le façonner, en partie telle que l'esprit les avait préalablement imaginées. Cette instabilité conceptuelle du cerveau, qui découle en partie de la manière dont les savants ont construit leur rapport à sa matérialité, était pour Steno à l'origine d'une forme de tautologie présente dans les discours sur le cerveau. Et il me semble que cette idée peut éclairer les analyses historiennes pour étudier la construction des connaissances sur cet organe. En ce sens, l'histoire de la manière dont les discours et les pratiques sur, à propos et autour de cet organe ont façonné sa spécificité devient également l'histoire de la construction d'un organe malléable. En construisant un organe malléable, donc les médecins, chirurgiens, naturalistes qui disposaient des ressources, des compétences, des instruments et des positions, institutionnelles ou non, nécessaires pour produire des connaissances anatomiques sur le cerveau, se sont placés au devant de cette recherche, affirmant ainsi leur autorité sur la connaissance de cet organe. Bien sûr, il faut garder en tête que cette malléabilité n'est pas totale et imprégnée de déterminants autres métaphysiques, ontologiques, médicaux et anthropologiques qui ont une longue histoire. Mon but dans cette présentation n'est pas de faire cette longue histoire, mais plutôt d'essayer de documenter une configuration spéciale de cette malléabilité et donc de cette autorité savante particulière dans une période particulière. Cette configuration, c'est celle de la construction du cerveau comme marqueur de différence raciale du dernier tiers du XVIIIe siècle jusqu'au début du XIXe siècle dans les empires français et britanniques. Il s'agira de voir comment une autorité de savoir sur l'humain et ses différences peut reposer sur la malléabilité d'un organe, en l'occurrence le cerveau. Donc dans un premier temps, essayer de voir les raisons explicitées par les savants eux-mêmes pour expliquer qu'ils ne savent rien ou peu du cerveau, comprendre l'ordre de leur discours, puis essayer de voir les enjeux d'autorité qui sont derrière cette construction d'un organe malléable et donc de ses énoncés en essayant cette fois-ci de ne pas être trop captif du discours des savants. Mais d'abord, brièvement voir les enjeux d'autorité savante, ou plutôt de champ de savoir, qui ont présidé à l'émergence du cerveau comme marqueur de différence raciale, marqueur de cette construction-là. Les historiens et historiennes ont avancé que cette nouvelle conceptualisation pouvait être définie comme la traduction en termes matérialistes de débats de longue durée sur la localisation et la nature de l'esprit et de l'âme. Les processus de naturalisation et de temporalisation au cours du XVIIIe siècle auraient ainsi été les moyens de matérialiser et de séculariser l'étude des êtres humains et de leur esprit et de leur intelligence. Les savants étudiant le cerveau auraient ainsi biologisé l'esprit en ce sens qu'ils l'auraient séparé de l'âme et fourni une explication matérielle ou incarnée de ses facultés et phénomènes, notamment intellectuels. C'est une variation sur le grand récit de la sécularisation des Lumières. Également, les analyses classiques de la notion de race à la fin du XVIIIe siècle, on mis en avant l'idée que là où il y avait fluidité et versatilité de la notion de race, il y avait au tournant 18e et 19e, fixité et inégalité des différences humaines. À rebours de ces interprétations, j'ai essayé de suivre les historiens et historiennes pour qui il ne s'agit pas véritablement de sécularisation et de matérialisation du cerveau, ni de fixité et d'inégalité des différences entre humains, mais plutôt une tentative grandissante des savants naturalistes et médecins, ceux qui nous intéressent aujourd'hui, à prendre le contrôle de cette enquête sur l'humain et donc à annexer ces déterminants, langue, coutume, religion, etc., à des déterminants qui relèvent du corps. Donc un effort. Cet effort, qui relève d'un enjeu d'autorité de savoir, n'est pas progressif ni linéaire, en cela qu'il suit les divers contextes politiques institutionnels des sciences en France et en Grande-Bretagne. En ce sens, les savants du début du 19e ont davantage prolongé, pour certains historiens et historiennes, et que critiqué le programme naturaliste établi par leurs prédécesseurs à la fin du 18e siècle. Au cours de cette période, la race est progressivement devenue un principe régulateur qui a redéfini, en s'imposant comme cause notamment, les descriptions antérieures des caractéristiques humaines, de leurs différences, de leur évolution. La définition précise de ce principe régulateur et de sa portée fait donc l'objet d'une lutte pour l'autorité entre de nombreux corps savants, notamment la médecine. Pour ce qui est du cerveau plus précisément, les historiens et historiennes ont défini cette période comme une transition où les différences entre humains et animaux et les différences entre humains ne sont plus définies comme qualitatives mais quantitatives. C'est le cas de Lauren Daston et Charles Wolff. Vous voyez des citations ici. La, je cite, naturalisation de l'âme, comme l'appelle Wolff, décrivait ainsi un processus dans lequel, au sein des débats sur les liens entre l'esprit, le cerveau et l'âme, les savants étudiant le cerveau ont acquis un rôle prépondérant dans l'explication des différences humaines. Dans l'histoire plus longue du cerveau malléable, donc, la naturalisation apparaît comme le moment où des êtres humains, tout autant que leur esprit, ont été placés dans un continuum avec les animaux. C'est dans ce cadre que les différences anatomiques et donc se sont mises à pouvoir désigner des différences raciales. À ce titre, la naturalisation doit également être comprise non seulement comme un cadre conceptuel, mais aussi comme un outil que les savants ont façonné et utilisé en fonction de leur contexte d'énonciation dans des sociétés esclavagistes, Sylvia l'a rappelé, où prennent place des débats sur l'abolition, sur les différences entre les hommes et les femmes, sur l'hygiène, sur la reproduction et son contrôle, etc. etc. La naturalisation n'a pas constitué un processus homogène, mais elle a pris des formes différentes selon les contextes d'énonciation. Comme l'affirme Michael Hagner à propos du cerveau, naturalisation, quantification, intellectualisation serait une grave erreur de considérer que ces termes ont tous le même sens. Pour autant, on l'a vu, même avec l'autorité grandissante que les savoirs sur le cerveau prennent dans la définition de l'humain et de ses différences, on a continué à avoir non pas une affirmation de cette connaissance positive, mais une affirmation de cette connaissance potentielle mêlée à des constats sur la difficulté, voire la nullité de cet effort. On va donc maintenant se tourner vers les arguments mobilisés par les savants eux-mêmes pour justifier ces constats répétés. C'est un élément mentionné dans la citation de Steno, et en fait c'est quelque chose qui court dans une large partie des textes médicaux qui traitent du cerveau, la difficulté matérielle à étudier cet organe. Difficulté à le manipuler, à le conserver, à le disséquer. Lorsque les savants cherchent à construire le cerveau comme marqueur de différence raciale, ils vont aussi vouloir examiner des cerveaux de personnes non européennes, et à ces difficultés s'ajoutent donc les difficultés de préparation et de transport à l'échelle coloniale de ces organes. Et on va le voir, la difficulté de mobilité due à cette relation des savants avec cette matérialité particulière, a des effets sur le régime de connaissance du cerveau. Les savants répètent que le cerveau, de par sa matérialité particulière, graisseuse, pour le dire assez pratiquement, fuyante, pour le dire plus métaphoriquement, est difficile à extraire, à disséquer, à conserver et à transporter. un point de départ pour essayer de comprendre ces difficultés à manipuler un cerveau, et donc comprendre les difficultés à pouvoir étudier ce qui est énoncé comme étant un matériau premier d'étude pour comprendre l'humain et déterminer les différences raciales. Ce sont les consignes pour l'étude anatomique des corps données aux voyageurs naturalistes européens. Deux recueils d'instructions, publiés respectivement en 1827 et 1865, témoignent des difficultés auxquelles se heurtent les naturalistes et les médecins itinérants pour la préparation et la conservation des cerveaux à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Le premier, rédigé par le médecin et chimiste britannique John Davy en 1825, est publié dans l'Edinburgh Medical and Surgical Journal en 1827. Davy, c'est un membre de la Royal Society, à partir de 1834, et nommé inspecteur général des hôpitaux militaires des Antilles en 1862. Il rédige ses instructions alors qu'il se trouve à Corfou, à partir de ses nombreux voyages dans l'armée avec les colonies britanniques. La deuxième série d'instructions a été rédigée par l'anatomiste parisien et fondateur de la Société d'anthropologie de Paris, Paul Broca, qui a dédié aux, je cite, « voyageurs et habitants des pays étrangers intéressés par l'anthropologie ». Ces textes, publiés donc après la période couverte par ce colloque, mettent en lumière bon nombre en fait, des problèmes auxquels les savants de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe ont été confrontés lors de la collecte de cerveaux. Broca, par exemple, réitère l'affirmation selon laquelle la substance cérébrale était fragile, en particulier sous l'effet de la chaleur, comme l'avait déjà indiqué Steno en 1869. Il commence ses instructions en avertissant le lecteur que les dissections et préparations de cerveau dans les pays non européens tropicaux doivent être réalisées le plus rapidement possible. Pour Davy, le problème n'était pas la chaleur, mais les variations de température dans les pays non européens. Cela exigeait une action rapide de la part des savants. Cela signifiait qu'outre la dissection, la conservation jouait également un rôle essentiel dans l'extraction des cerveaux. Ces questions ont notamment été abordées en détail dans un article publié en 1791 dans le journal La médecine éclairée par les sciences physiques, où le sujet de la conservation du cerveau en tant que partie molle était mis en relation avec les études chimiques de cet organe. L'auteur de cet article commence par rappeler les difficultés pratiques liées à l'étude du cerveau et son manque de fermeté. Ce manque de fermeté s'accompagnant de détérioration rapide de ses parties, notamment sous l'effet de la chaleur, ce qui rendait difficile l'étude minutieuse que cet organe exigeait. Par ailleurs, jusqu'à l'utilisation plus systématique du formol dans la deuxième partie du XIXe siècle, les techniques de conservation varient considérablement. L'alcool ou esprit de vin est l'un des liquides les plus couramment utilisés pour la conservation des cerveaux. Il était également recommandé par Davy et Broca. Davy recommandait que le cerveau soit, je cite, « immédiatement immergé dans de l'alcool fort, puis au bout d'un mois remplacé par de l'alcool frais ». De cette manière, affirmait-il, la forme de l'organe était préservée, le sang coagulé, on obtenait une préparation, je cite, « dite prête à être exposée sur une étagère ou sur un musée sans autre souci ». Dans les instructions de Broca, ce processus, bien que similaire, semble plus long. Il indique que le cerveau doit être plongé dans un bocal contenant au moins un litre d'alcool, retourné tous les deux jours, et ce processus doit être répété pendant 15 jours. En comparaison, les crânes et les os, en général, nécessitent moins de préparation, et leur conservation est plus aisée. Dans ses instructions, Cuvier, par exemple, affirme, après quelques heures de cuisson dans un mélange de carbonate de sodium afin d'éliminer les restes de chair, les os dont le crâne ainsi bouilli, pour ainsi dire, sont prêts à être transportés. Le transport ne présentait pas d'autres problèmes, car, je cite, « les os décharnés de chaque squelette seront placés dans un sac en toile, sans aucun ordre, ils seront assemblés en Europe. » Donc la fragilité du cerveau compliquait sa collecte et présentait des différences assez remarquables avec celle du crâne. Une fois mise en place des mesures de conservation, dans le cas des parties du corps humain venant d'espaces coloniaux, la difficulté était le transport, là où un plus grand nombre de savants pouvaient les étudier. Dans le cas du cerveau, la principale difficulté liée au voyage de longue distance résidait, comme nous l'avons vu, dans sa conservation dans des liquides et son stockage. La question de la fermeture hermétique des bocaux ou des tonneaux revêt alors une grande importance. Plusieurs naturalistes mettent au point de nouvelles techniques à bord, comme la pérouse et sa formule dite de lithocol, car les pratiques de scellement apprises dans les musées et les centres européens s'avèrent souvent inefficaces en mer. Une fois scellé, l'écosystème complexe du navire pouvait encore agir sur la décomposition des restes humains, car les attaques d'insectes et les mauvaises conditions météorologiques menaçaient en permanence la cargaison du navire. Par exemple, Davy recommandait l'utilisation de vessies ou de panses d'animaux pour sceller les préparations, mais mettait également en garde contre leur utilisation, en particulier à bord des bateaux. Il recommandait de mettre à l'abri les préparations, je cite, « car les rats, souris, cafards, animaux très friands de cette membrane, donc les panses d'animaux, l'attaquent dès qu'ils se trouvent sur leur chemin ». Cela nous rappelle, en fait, ce que les historiens et historiennes Kathleen Murphy et Christopher Parsons ont appelé que les navires peuvent être considérés comme des lieux de l'histoire des sciences et de la médecine, au même titre que les musées ou les collections anatomiques. Ils les ont qualifiés d'écosystèmes transportant, je cite, des biocargos. Enfin, en tant que partie intégrante de cet écosystème, la relation entre les naturalistes et les médecins et les marins joue également un rôle essentiel dans ce transport des spécimens. Cuvier rapporte à cet égard que la préparation des parties du corps à bord du navire pouvait susciter le dégoût chez les marins et créer des tensions avec les naturalistes et les médecins présents à bord. Il affirmait que les naturalistes voyageurs ne devaient pas s'empêcher de collecter ou de conserver des restes humains pour ces raisons. Je cite, « Les marins peuvent s'opposer à ce que ces opérations qui leur semblent barbares soient effectuées à bord, mais dans une expédition qui a pour but le progrès de la science, il est nécessaire que les chefs ne se laissent guider que par la raison et qu'ils sachent l'inspirer à leurs équipages. » Une fois prélevés et transportés, conservés, les anatomistes doivent faire la dissection du cerveau. Et là encore, chaque technique de coupe construit de manière différente cet organe et son observation. Les méthodes de coupe utilisées par les anatomistes de la fin du XVIIIe et début du XIXe trouvent principalement leur origine dans ce qu'on appelle la première modernité. Entre la technique de coupe horizontale qui mettait en lumière les ventricules et les substances grises et blanches du cerveau, celle qui consistait à retirer complètement le cerveau des os composant le crâne et qui permettait de visualiser les hémisphères cérébraux et le réseau de nerfs, la dissection partant de la base du cerveau qui matérialise l'unité du système cérébro-spinal ou encore les méthodes de coupe en suivant les vaisseaux sanguins pour mettre en lumière le cortex cérébral, on a une variété de méthodes de coupe et les savants ont souvent recours à un mélange de ces méthodes dans leur dissection. Ces différentes manières de découper cet organe constituent autant de façons de le voir, de le percevoir, de le conceptualiser qui à son tour a fasciné la manière de le disséquer. On pourrait presque affirmer que chaque savant crée un organe différent en fait, à travers ces méthodes de dissection. Et donc le cerveau abritait différentes entités, différents noms, tels que le système cérébro-spinal, l'encéphale, le cerveau, donc le cervelet, etc. L'organe et l'objet d'étude cerveau n'étaient donc pas toujours le même, et il est important, lorsqu'on cherche à en faire l'histoire, de ne pas présupposer une unité sous laquelle on peut le connaître maintenant. Le cerveau apparaît donc comme une masse molle, organique, instable, difficile à extraire, à disséquer, à conserver, à transporter. D'autant plus remarquable si on le compare le cerveau à un objet d'étude qui est intimement lié et davantage étudié par l'historiographie, c'est le crâne. Le crâne pouvait être transformé en objet à l'aide de méthodes plus simples, en tout cas prélevées et transportées avec un minimum de préparation. À ce titre, les crânes constituaient également des matériaux plus fiables et plus faciles à exposer dans les musées, par exemple, ou dans les collections anatomiques, ou présentés dans des cours. Étudier l'histoire du cerveau à la fin du 18e, c'est revient souvent à enquêter sur quelque chose qui n'a jamais existé ou qui n'existe plus dans les rayons des musées et des dépôts, contrairement au crâne. À cette époque, seules les collections disposant de vastes réseaux et de liens coloniaux pouvaient rassembler quelques cerveaux, notamment surtout d'animaux, provenant de territoires extra-européens, ce qui explique leur présence dans les collections de Londres, Paris, Édimbourg, mais aussi d'Amsterdam ou Leiden, par exemple. Dans le cas du cerveau et du crâne, les régimes de mobilité, régimes d'exposition et régimes de connaissance étaient étroitement liés, mais différents. On peut se demander, même si le fait qu'un certain nombre d'historiens et d'historiennes se soient penchés sur le crâne plutôt que certaines parties molles comme le cerveau, n'est pas aussi un reliquat de ce registre de monstration particulier. Cette historiographie, justement, a démontré que les crânes circulaient à l'échelle globale. En examinant la manière dont les crânes étaient, je cite, « collectés, échangés, volés, expédiés, soigneusement emballés, mesurés, examinés », les historiens tels que Ricardo Roquet ou James Poskett ont fait valoir que le « global » n'était pas seulement une catégorie analytique des historiens et historiennes, mais aussi une catégorie d'acteurs. Comme le souligne Poskett, les phrénologues comparaient les crânes provenant du monde entier car pour eux, je cite, « le global était une garantie de vérité ». Pour les chercheurs étudiant le cerveau comme marqueur de différence raciale, on l'a vu, cette dimension globale ne pouvait servir de garantie de vérité, ni même de garantie de preuve empirique. Hélène MacDonald évoque à ce propos un horizon d'attente, en anglais « culture of expectation », pour définir les possibilités imaginées par les médecins d'accéder à des corps à des fins d'études. Dans le cas des cerveaux de personnes non européennes, cet horizon se limitait à des cas exceptionnels, ce qui à son tour a façonné la portée de cette recherche. Les cerveaux d'animaux non humains, tout comme les restes humains, faisaient partie d'une histoire coloniale, commerciale violente, marquée par des frictions, des discontinuités, une mobilité restreinte, voire impossible. Leur régime de circulation traduisait dans leur présence fragile dans les collections et les musées, ce qui a influencé la manière en retour dont ces connaissances sur cet organe se sont construites. Et on note d'ailleurs, on pourra y revenir peut-être, une absence du cerveau dans les instructions aux voyageurs. Ces difficultés matérielles et pratiques fondaient en partie les énoncés sur le manque de connaissances sur le cerveau. On ne savait rien du cerveau car il était malaisé, à étudier, disaient les savants. Cela se traduisait aussi en plainte sur le fait de ne pas avoir accès au cerveau de personnes non européennes comme matériau premier de détermination de différence raciale. Broca déclarait par exemple, je cite, « L'importance de l'étude du cerveau explique l'insistance avec laquelle nous recommandons la préparation et la conservation de cet organe. Un voyageur qui pourrait rapporter ne serait-ce que 5 ou 6 cerveaux d'une ou plusieurs races étrangères rendait un service inestimable à la science. » Voilà, 5 ou 6 cerveaux seulement sont mentionnés. Pourtant, malgré cette rareté de ce qu'on pourrait appeler ou ce qui pourrait être considéré comme source primaire, les médecins, anatomistes et les naturalistes ont continué à fonder les théories sur le cerveau, sur les différences raciales, à partir donc d'études sur le cerveau. Ce qui implique la nécessité de remettre en cause l'idée selon laquelle la construction des connaissances médicales et anthropologiques sur la race reposerait nécessairement sur une étude systématique du corps en tant que preuve empirique. Plus fondamentalement, les imbrications entre le régime spécifique de l'exposition, de la mobilité et de la connaissance du cerveau expliquaient en partie pourquoi les chercheurs s'appuyaient sur d'autres types de cerveaux pour étayer la construction de cet organe en tant que marqueur de la race. En ce sens, ils l'ont fait en étudiant les types de cerveaux qui leur étaient plus accessibles. Bien que les savants établissant le lien entre le cerveau et la race aient déploré qu'à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, le nombre de cerveaux de personnes non européennes fut trop rare, ils ont continué à produire des théories sur cet organe en s'appuyant sur sa malléabilité et en le construisant. Ces conditions expliquaient en partie que ces constructions étaient relativement indépendantes de ce que nous pourrions considérer comme du matériel primaire ou des données. Ils ont utilisé les études de cerveaux d'animaux, de femmes, de personnes définies par leur classe sociale ou par leur pathologie mentale pour alimenter la construction du cerveau en tant que marqueur différence raciale. On reviendra sur ce point. On l'a vu, en plus des difficultés matérielles à étudier le cerveau, les médecins anatomistes avançaient souvent l'idée qu'il était difficile d'arriver à une connaissance du cerveau, car les théories à son propos, notamment sur ses fonctions, étaient nombreuses, en discussion et en concurrence à l'échelle européenne. C'est aussi le cas du cerveau comme marqueur de la notion de race. Partout en Europe, les savants sélectionnaient différentes parties du cerveau, lisaient les travaux de leurs confrères, discutaient dissection anatomique et tentaient d'asseoir leur autorité sur la connaissance de cet organe. Ce faisant, ces chercheurs formaient ce que Claude Bancard a appelé un collège invisible au sein duquel il n'existait aucun consensus quant à la partie du cerveau qui devait être désignée comme marqueur de différence raciale. Au milieu du XVIIIe siècle, l'un des premiers débats sur les différences raciales tournait autour de la couleur de la peau et de la couleur du cerveau. Dans deux ouvrages distincts, l'anatomiste prussien Johann Friedrich Meckel l'Ancien affirmait que le cerveau des Africains était d'une couleur plus foncée, voire bleuâtre. Cela expliquait aussi, selon lui, la couleur plus foncée de la peau, puisqu'un fluide pouvait être acheminé par le système nerveux du cerveau vers la peau. Il affirmait également que cela était lié à la couleur du sang, alors que le sang des Européens, je cite, rougissait les draps de la table dissection, affirmait-il, celui des Africains les noircissait. La même année, en 1757, le médecin français Claude-Nicolas Lecas, qui avait lu Meckel, corroborait ses conclusions, une idée qui va perdurer et dont on retrouvera les traces chez Edouard Long ou Broca notamment. Un autre marqueur les plus cités de l'intelligence et de la différence raciale était celui de la taille du cerveau. Les chercheurs de la fin du XVIIIe se référaient souvent à Aristote pour établir un lien, encore une fois, d'autorité savante entre intelligence et taille du cerveau. Et Alexander Monroe, par exemple, après avoir disséqué de nombreux cerveaux animaux, affirmait que la seule différence entre humains et animaux résidait dans le fait que le cerveau des animaux des classes inférieures était plus petit que celui des humains. Monroe Secundus, donc fils de Primus, est membre de la longue lignée des Monroe qui ont organisé l'enseignement de la médecine à l'université d'Édimbourg, a consacré une partie importante de son œuvre à la description du système nerveux et de l'anatomie comparée du cerveau. Selon lui, la taille du cerveau correspondait en termes quantitatifs à la supériorité des humains sur les animaux. Ce critère de la taille fut l'un des plus courants, mais aussi l'un des plus controversés tout au long de la fin du XVIIIe et début du XIXe siècle, pour expliquer l'intelligence supérieure des humains et justifier leur domination ontologique et pratique sur les animaux. Il devint également un moyen de classer hiérarchiquement les races humaines. Par exemple, le médecin anglais et polygéniste Charles White, on a vu au début qu'il affirmait qu'il savait peu de choses sur le cerveau, affirmait que, je cite, les Européens avaient un cerveau plus volumineux que les Africains. Comme il l'écrivait, la calvitie du crâne qui contient à la fois le cerveau et le cervelet est moins spacieuse chez les Africains que chez les Européens, et encore moins chez les espèces animales. Ce qui l'amène à conclure que, je cite, le cerveau de l'Européen est le plus grand de tous les animaux que nous connaissons. Toutefois, ce critère de la taille et du poids du cerveau a été aussi, lui, contesté par des savants qui soutenaient qu'ils ne pouvaient pas rendre compte des animaux dotés d'un cerveau plus volumineux que celui des humains. Ces chercheurs affirmaient qu'il ne pouvait constituer un critère valable que s'il était calculé par rapport à la taille du corps. Mais cette nouvelle mesure, elle aussi, était également critiquée pour son manque de cohérence. Comme l'a fait valoir naturaliste français et secrétaire du Muséum national d'histoire naturelle, Georges Cuvier, je cite, « Il est très difficile, pour ne pas dire impossible, d'établir cette proportion de manière comparative, car le poids du cerveau reste plus ou moins le même, tandis que celui du corps varie considérablement, pouvant même doubler selon qu'il est plus maigre ou plus gras. » Comme la taille et le poids des corps différaient d'un individu à l'autre, leur mesure par rapport au corps ne satisfaisait pas Cuvier. Cuvier privilégiait une loi d'équilibre qui imposait, dans les discours savants, entre le visage et les lobes frontaux d'une part et la zone occipitale à l'arête du cerveau d'autre part. L'intelligence était réservée, selon Cuvier, aux humains et aux animaux dotés d'un visage et d'un lobe frontal plus développés, tandis que l'instinct et la sensibilité des animaux se situaient dans la zone occipitale. Pour contourner ce problème lié au caractère incertain du poids et de la taille du cerveau, Thomas von Sommering proposait un autre critère permettant de distinguer les différences raciales dans l'anatomie du cerveau. Il se référait au principe de Monroe, mais mit l'accent sur la taille par rapport à celle des nerfs crâniens. Sommering était un médecin et anatomiste prussien qui avait suivi les cours de Blumenbach à Göttingen. Pour Sommering comme pour Cuvier, la taille du cerveau elle seule ne constituait pas un critère pertinent pour distinguer les animaux et les humains, car elle variait en fonction de la forme et de la structure du corps. Selon lui, le critère pertinent est celui de la taille du cerveau par rapport à celle des nerfs crâniens. Ces nerfs étaient décrits comme acheminant le flux cérébral vers le cerveau, et plus les nerfs étaient épais, moins ce flux cérébral pouvait s'écouler vers le cerveau et en renforcer les facultés, notamment l'intelligence. Semmering établit ainsi une loi de correspondance entre l'épaisseur des nerfs crâniens et la petite taille du cerveau en disséquant divers animaux et humains, plus précisément les cerveaux des chevaux et de personnes d'origine africaine. Enfin, le médecin et naturaliste anglais William Lawrence rejetait les arguments antérieurs de Monroe et de Semmering. Lawrence était un disciple de Blumenbach, à qui il dédia sa publication majeure. Il déclarait, je cite, que les recherches sur le poids relatif du cerveau et du corps, ainsi que la comparaison entre le premier et les nerfs qui y sont reliés, donc les théories qu'on a déjà vues pour l'instant, n'ont pas encore fourni d'informations précises et claires concernant la différence entre l'homme et les animaux. Lawrence avait suivi une formation de chirurgien, il avait exercé dans plusieurs hôpitaux londoniens et était devenu membre et professeur du Collège royal des chirurgiens. Dans sa première série de conférences, donnée en 1817 et publiée en 1823, Lawrence soutenait que c'était ni la taille du cerveau, ni sa relation avec les nerfs crâniens, mais bien la forme et la taille des hémisphères cérébraux qui constituaient le critère permettant de classer les animaux et les êtres humains. On disait souvent que ce critère était lié aux circonvolutions cérébrales, car plus un cerveau était circonvolué, plus les hémisphères étaient volumineux. Il affirmait ainsi que, je cite, « la supériorité de l'homme en matière de facultés rationnelles n'est pas plus grande que la structure plus exquise, plus complexe et parfaitement développée de son cerveau, et en particulier de ses hémisphères cérébraux volumineux, auxquels le reste du règne animal n'offre aucun parallèle, ni même aucune approximation suffisante pour l'expliquer. » Donc comme le montrent ces différents exemples, donc Alexander Monroe Segundus à Édimbourg, Charles White et William Lawrence à Londres, Thomas von Semmering à Göttingen et Essen, Georges Cuvier à Paris, la portée de ces recherches s'étendait à toute l'Europe, en tout cas une partie pardon, de l'Europe, et les savants étudiaient le cerveau, lisaient, citaient et débattaient entre eux. Ces brefs exemples montraient aussi et surtout qu'il n'y avait pas de consensus parmi les médecins, les anatomistes et les naturalistes quant à la partie du cerveau à retenir pour établir et justifier la supériorité intellectuelle et anthropologique et raciale des humains sur les animaux, ainsi que sur celle de certaines races humaines sur d'autres. Les savants ont établi divers liens entre les différences raciales et l'anatomie du cerveau, qui se recoupaient, se contredisaient, se complétaient mutuellement. Bien que ces savants s'accordaient à dire que le cerveau était le siège matériel des différences raciales, les diverses conceptualisations du cerveau et son lien avec la race au sein de l'anatomie comparée rendaient la définition de ces organes instables. Témoignage de cela, en 1829, le naturaliste français Marie Ducrotet de Blainville s'interrogeait sur ce désaccord entre ses chercheurs étudiant le cerveau. Il déclarait, je cite, « Voyez combien de différences il y a entre les savants les plus avancés et les plus consciencieux de nos anatomistes modernes, comparés ceux de Gall et Spurzheim, dont on a parlé dans la présentation précédente, Tiedemann, Serre, Florence, Desmoulins, Magendie, Fauville, tous s'accordent, et je suis en partie d'accord avec eux, sur la pluralité des organes nerveux. La même idée générale prévaut dans tout leur ouvrage, mais dès qu'il s'agit d'appliquer cette idée, de la développer en détail, l'accord cesse. » Ou encore, dans une étude chimique du cerveau publiée en 1811, le savant français Louis-Nicolas Vauquelin se demandait de manière rhétorique si, je cite, « les nombreux travaux ingénieux des anatomistes, notamment Semmering, Vic d'Azyr, Chaussier, Gall, etc., qui sont à juste titre tenus en haute estime, nous ont permis de découvrir bien plus que ce que l'on savait auparavant sur le mécanisme par lequel le cerveau exerce ses fonctions, quelles qu'elles soient. » On retrouve ici donc ce par quoi on avait commencé, c'est-à-dire une forme de scepticisme, voire de déception à l'égard des connaissances sur le cerveau et de ce qui peut être su à propos du cerveau. On a vu deux des principales raisons dont les savants de cette période se servent pour expliquer ce phénomène, difficultés techniques et pratiques d'une part, dont on a vu les conditions, mais on a aussi vu qu'elles n'ont pas empêché le recours à d'autres types de matériaux et donc de cerveaux pour continuer à construire le cerveau comme marqueur de la race, et d'autre part, la difficulté à trouver un consensus au milieu de théories contradictoires et en compétition, dont on a vu qu'elles n'ont pas encore l'amené à un ralentissement de la théorisation, bien au contraire. En fait, il semble que les énoncés qu'on a cités au début, qui sont repris en grande partie par les savants qui étudient le cerveau pour déterminer la race, relèvent en grande partie de la construction et de l'exploitation du cerveau comme organe malléable. On y revient. Et cela d'autant plus que cela correspond à la malléabilité de la notion de race elle-même pendant cette période. Vous avez ici des variations sur le thème de la malléabilité de la notion de race, que j'emprunte le terme malléabilité à Anne-Laure Stoller, mais d'autres historiens, historiennes, ici on a aussi des philosophes, anthropologues et sociologues, on souligne cette idée et ils nous renseignent sur une des raisons de la fortune malheureuse de la théorie et de l'histoire de cette notion. Il est avancé que ce que nous pourrions relever comme les difficultés de théorisation, des incohérences, des contradictions dans le cas du cerveau, les difficultés matérielles à l'étudier et les nombreuses contradictoires théories concernant le cerveau comme marque de la race, ne sont pas des obstacles à la théorisation de la race, mais bien une de ses forces premières. Ce n'est pas en dépit de ces contradictions, mais bien parce qu'elles forment un réseau d'arguments protéiformes et donc difficiles à réfuter d'un coup, que la notion de race émerge et réémerge dans des contextes et sous des formes différentes. Et c'est dans ce cadre que les difficultés matérielles à étudier des cerveaux non européens n'ont pas empêché la théorisation de la race par cet organe. Et les théorisations contradictoires n'ont pas amené au discrédit de cette théorisation non plus, mais plutôt l'inverse. En proclamant la difficulté à arriver à une connaissance du cerveau pour ces raisons, tout en posant son importance dans la définition des différences humaines, les savants qui l'étudient se sont posés en autorité dans l'enquête anthropologique au tournant des 18e et 19e siècles. Ils se sont appuyés autant qu'ils ont construit le cerveau malléable pour définir différents types de différences humaines. J'ai surtout évoqué la race, mais le cerveau est aussi défini comme marqueur de différence de genre, d'animalité, de statut social, de pathologie mentale, plus tard de criminologie, etc. Ces théorisations sont souvent faites dans un même mouvement, de telle manière qu'elles deviennent un tout un petit peu inextricable, dont les contradictions ou à minima les débats incessants entre les théories en assurent en fait le succès. La malléabilité du cerveau, à ce titre, correspond à la malléabilité de la notion de race, ou plutôt, les savants cherchant à définir la notion de race en médecine, en histoire naturelle, ont, avec le cerveau, un organe dont la malléabilité, notamment matérielle et conceptuelle, pouvait servir à leur théorisation multiple. En conclusion, on peut dire que la construction du cerveau comme marqueur de différence raciale repose sur plusieurs niveaux d'autorité savante. Une autorité de médecins qui cherchent à étendre leur influence dans la définition de l'humain autant au sein de l'enquête anthropologique. Une autorité qui est politique, principalement composée donc d'hommes européens qui cherchent à assigner des définitions à des groupes comme des non-européens ou des groupes au sein de sociétés européennes comme les femmes, les malades, les pauvres, etc. Notamment dans des moments où les différences qui étaient autrefois assurées par le droit ou le statut semblent s'effacer. Une autorité qui repose aussi sur des procédés que l'histoire des sciences, notamment, nomme désormais extractifs. Ici, c'est d'autant plus frappant que ça repose sur l'étude de restes humains. Et à ce titre, ce que j'ai appelé tout au long de l'exposé « collecte recouvre une grande violence coloniale. Et on l'a vu, de nombreux acteurs intermédiaires, des pratiques, des techniques spécifiques et même des non-humains. Enfin, à un autre niveau, et c'est ce que j'ai essayé principalement de montrer dans cet exposé, cette autorité savante dans la détermination des différences raciales par l'étude du corps pouvait reposer, dans le cas du cerveau, sur un organe malléable, c'est-à-dire un organe dont la définition de la structure et des fonctions était constamment en débat, à propos duquel affirmer une connaissance positive était rare, et qui, pour ces raisons, permettait aux savants de théoriser, dans le même mouvement, un grand nombre de différences humaines. Enjeu d'autorité savante qui se retrouve dans d'autres champs savants de cette période, et si l'étude du cerveau offre une configuration particulière, il me semble, les enjeux qui y sont sous-jacents se retrouvent dans d'autres sphères, et je suis sûr qu'on les reverra probablement dans les autres présentations dans la suite du colloque. Merci beaucoup.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.